pour ces carnets hebdomadaires qui, désormais, vous le savez, vous l'avez noté, sont diffusés à 14h et non plus à 15h comme la tradition s'en était établie. Donc, je salue Roselyne Trévy qui est donc dans la cabine téléphonique, qui s'agite autour de ses curseurs, micros, etc. Mais je pense qu'elle elle a le moral, il n'y a pas de souci. Et je salue Habib, bonjour.
Salut Bernard, salut Rose.
Fidèlement là. On va consacrer cette émission principalement aux questions africaines. Il y a une raison plus générale, c'est que dans la transformation du monde qui est en cours, c'est l'Afrique qui va être le lieu des plus grandes transformations. C'est-à-dire que les situations en Asie, par exemple, sont relativement stabilisées. On voit à peu près où va le Vietnam, où va le Japon, etc. En Amérique latine, il y a des mouvements divers, mais enfin, il y a quand même des tendances générales. Et puis, il y a par contre cette Afrique où, effectivement, tout est très ouvert et tout se transforme très vite. D'où l'intérêt de centrer notre projecteur aujourd'hui sur l'Afrique. Et on va le faire à travers une interview que je vous avais annoncée il y a quelques semaines, à travers l'interview d'un historien qui est ivoirien, je vais vous le présenter plus en détail, qui était de passage à Marseille la semaine dernière et qui nous a gratifié, parce que je ne peux pas employer d'autres termes que gratifié, tant son intervention, vous l'entendrez, est de qualité, d'une analyse du scrutin des élections locales et régionales qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire au début du mois de septembre. Et là, ça mérite d'une part d'être écouté pour la Côte d'Ivoire, mais ça mérite d'être écouté pour les leçons qu'il faut en tirer sur l'ensemble de cette Afrique qui bouge, comme on dit. C'est facile de dire ça bouge, mais effectivement, c'est certainement le continent du monde où les cartes sont en cours de redistribution pratiquement du nord au sud du continent africain. Avant d'aller plus loin, donc je présente d'abord Pierre Kipré, qu'on a déjà reçu à l'antenne. Il est donc universitaire de formation, historien, spécialisé petit à petit, d'ailleurs ça ne lui est pas venu d'un seul coup, dans l'histoire de l'Afrique. Il a largement contribué à l'histoire générale de l'Afrique qui a été publiée par l'UNESCO, que vous connaissez certainement, mais dont je recommande la lecture, puis c'est le premier ouvrage synthétique sur l'histoire de tous les pays d'Afrique, de toute cette Afrique qu'on connaît encore relativement mal. Il a ensuite été ministre de l'Éducation nationale dans son propre pays. Il a été en plus ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris à un moment crucial de l'histoire, c'est-à-dire au moment où la France de Nicolas Sarkozy voulait chasser le président légalement élu de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, dont il dit que c'est son ami puisqu'ils ont été élevés à peu près au même endroit, ils ont le même âge, mais pas plus que ça, enfin, c'est pas le bras droit de Laurent Gbagbo, c'est un monsieur qui est un ami d'enfance, qui rencontre, comme il le dit, et vous l'entendrez, qui rencontre assez régulièrement Laurent Gbagbo, qu'il a rencontré quand Laurent Gbagbo était en prison, mais il n'est pas le porte-parole de Laurent Gbagbo, ni dans le parti, ni d'une façon générale. Simplement, il est proche, il sait ce que son compagnon d'enfance éprouve, il sait ce que ce compagnon a souffert de la politique française, et il nous le fait partager. Ça, c'est pour présenter donc Pierre Kipré. Et il est l'auteur, alors je vous fais grâce, mais regardez Pierre Kipré, cherchez sur Internet et vous trouverez la liste de ses ouvrages nombreux qu'il a publiés sur l'histoire de l'Afrique en particulier, dont il est un des grands spécialistes contemporains. Par ailleurs, il faut, avant que vous écoutiez cette émission, que je resitue les noms d'un certain nombre de partis politiques qui participaient à cette élection locale du mois de septembre 2023. Parce que si vous êtes ivoirien et que vous suivez l'actualité, vous connaissez les noms, mais autrement, vous ne les reconnaîtrez pas. Donc, je vais citer le premier, le RHDP, qui est le parti du président, qui s'appelle Alassane Ouattara, et qui proclame, vous l'entendrez dans l'émission, qu'il a pratiquement gagné, il a un carton plein, comme on dirait, dans les milieux sportifs. Le RHDP a écrasé ses concurrents sur la scène électorale. On y reviendra puisque c'est principalement le sujet de l'intervention de Pierre Kipré. Un autre parti qui historiquement a du poids s'appelle le PDCI, qui était dirigé jusqu'à quelques jours avant ces élections par un vieux monsieur, c'est pas du tout une insulte, mais qui s'appelle Henri Conan Bédier, qui avait passé les 80 ans, qui a été à un moment président de la République ivoirienne, et il a été le successeur à la tête de ce parti, PDCI, de Félix Houphouët-Boigny. Ouais. Donc là, il y a toute une histoire qui était derrière ce personnage.
Et la RDA, non ?
Ça, c'était l'ancienne appellation. Et puis le troisième compétiteur dont on va parler, puisque c'est un peu ce compétiteur-là que Pierre Quipré va nous présenter, c'est le PPA-CI. Alors PPA-CI, ça veut dire Parti des Peuples d'Afrique-Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est un parti, vous entendrez dire, qui a été nouvellement créé et qui a l'ambition d'être un des partis de ce type-là, j'allais dire souverainiste pour l'indépendance nationale, etc., tiré Côte d'Ivoire, ce qui laisse penser que ses créateurs, son fondateur, Laurent Gbagbo et quelques autres, avaient dans l'idée qu'il y aurait peut-être un PPA tiré Burkina, un PPA tiré Togo, Guinée, etc. Voilà, etc. On n'en est pas encore tout à fait là, mais c'était bien l'idée en choisissant ce terme PPACI. Donc retenez, RHDP, donc le parti du président, PDCI, le parti d'Henri Conan Bédier, qui n'était plus vivant le jour du scrutin, et PPACI, le parti fondé il y a 2 ans, je souligne parce que ça sera souligné dans l'émission, mais il faut le rappeler, ce parti a été fondé il y a 2 ans par Laurent Gbagbo et ses amis quand Laurent Gbagbo est revenu de son exil, exil organisé par la République française et mis en œuvre au sein d'un procès au sein de la Cour pénale internationale où il a été donc prisonnier pendant longtemps, où son procès est allé jusqu'au bout. Et je rappelle, il faut que chacun se souvienne que Laurent Gbagbo est sorti de la prison de la Cour pénale internationale à l'aise, blanchi de toutes les accusations. Il a été acquitté. C'est donc un monsieur qui est revenu les mains totalement propres, mais il est revenu dans un pays qu'il avait quitté 10 ans plus tôt. Et il n'était pas le seul, puisque Pierre Quipré lui-même, qui était donc l'ambassadeur nommé par Laurent Gbagbo à Paris au moment de la crise de 2010-2011, lui-même n'a pas pu rentrer et tous les amis de Laurent Gbagbo se sont exilés. C'est-à-dire le PPACI est aujourd'hui un parti majoritairement d'exilés et qui reviennent au pays après 10 ans d'absence et chacun avec des fortunes diverses. C'est ça qu'il faut avoir dans l'idée. Il le redira plus en détail, mais il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que le défi était considérable. Il s'agissait, en étant là depuis 2 ans au pays, revenu d'un exil lointain et difficile pour la plupart d'entre eux, d'essayer de créer une force politique nouvelle face à une équipe et à un monsieur qui a le pouvoir que la République française lui a donné, car c'est rien d'autre que ça, l'arrivée au pouvoir de Alassane Ouattara, qui a le pouvoir que la République française et tous les pouvoirs possibles. Voilà. C'est ça l'enjeu. Il faut bien voir que c'est... Alors, élections locales, des municipales, des régionales, on dit c'est pas très très important, mais il faut bien voir, et vous allez comprendre en écoutant Pierre Quipré, que l'enjeu était de taille, y compris pour l'équipe au pouvoir. Car il fallait pouvoir dire... C'est ce qu'ils ont réussi à dire et ce qui ne tient pas à l'écoute de Pierre Quipré. Il fallait pouvoir dire « nous avons gagné ». C'était ça le but de la manœuvre, quelles que fussent les conditions dans lesquelles ils auraient gagné. Et vous allez voir que les conditions sont exécrables. Je pèse mes mots, mais on en tirera quelques leçons après cette émission. Parce que ce que je ferai, c'est qu'à propos d'un certain nombre de propos que tient Pierre Quipré dans l'interview, on reviendra sur cette actualité africaine, les peuples d'Afrique face aux processus électoraux et aux coups d'État, qui est une vraie question qui se pose pratiquement, pas dans tout le continent, mais dans beaucoup, beaucoup de pays en ce moment sur le continent. Voilà, donc on écoute si Roselyne est OK. On fait démarrer Pierre Quipré, une interview qui dure 38 minutes, je crois. Et donc, on lui donne la parole. Comme je vous l'avais annoncé dans une émission précédente, j'ai attendu la présence à Marseille d'un spécialiste des élections en Afrique, mais beaucoup plus que ça, en fait, pour nous faire aujourd'hui un petit compte-rendu sur des élections, donc... municipales et régionales qui se sont tenues en Côte d'Ivoire récemment. Parce que, et on va partir de là, la grande presse nous a dit que ces élections étaient un triomphe pour le parti au pouvoir et le président au pouvoir, et que pratiquement l'opposition n'existait pas, et en particulier l'opposition que certains attendaient tout de suite, l'opposition du nouveau parti créé par le président Laurent Gbagbo, le PPACI, c'est le nom de ce nouveau parti, qui est arrivé donc en Côte d'Ivoire en 2011, après son acquittement par la Cour pénale internationale, c'est-à-dire il est arrivé blanchi de tout ce à quoi on l'avait accusé. Et à partir de là, il a considéré qu'il allait pouvoir reprendre une vie politique normale, puisque ses mains étaient propres. Qu'est-ce qui s'est passé donc au cours de ces élections pour que ce parti ait de petits résultats, sur lequel tu vas nous expliquer, et le parti au pouvoir ait d'excellents résultats? Voilà. Donc, essaye de nous brosser un tableau de cette opération électorale.
Merci. Merci Bernard, merci de m'inviter. Et c'est toujours avec plaisir que je viens échanger avec les amis de Comager. Et oui, ces élections sont terminées. Le Conseil d'État a examiné pour les municipales les 71 requêtes. 71 requêtes, c'est beaucoup pour 190, pour environ 200 communes, c'est beaucoup.
Ça veut dire que,
ça veut dire que beaucoup de gens contestent ça. Et le Conseil d'État a pratiquement rejeté toutes les requêtes, donc ce qui confirme pour lui la victoire imparable du RHDP, du président Alassane Ouattara. J'ai vu dans la presse, aussi bien nationale qu'internationale, que pour tous, ça a été la bérésina du PPAC. Je reviendrai tout à l'heure sur ce point-là. Effectivement, quand on regarde les chiffres, les statistiques, le RHDP a quasiment, je n'ai pas tous les chiffres bien en tête, mais quasiment 137 ou 138 communes sur les 200 communes. Donc, le PDCI, l'ancien parti de pouvoir, a eu 29 communes, dont 9 avec son allié PPACI. Le PPACI a eu 2 communes. Donc, quand on regarde statistiquement, il n'y a pas photo. Le FPI de Afi Guessant n'a rien eu, sauf quelques communes gagnées par le RHDP, avec lequel il était en alliance. Lui-même a été battu au conseil régional qu'il présidait, bien qu'il soit l'allié du RHDP, le RHDP l'a lâché, et donc il a été éliminé. Le MGM de Simone Yvet, ex-madame, ex-Simone Gbagbo, n'a rien eu, rien du tout, rien, alors zéro pointé. Ça fait un peu mal de voir l'échec d'un parti, mais enfin, il faut constater ce qui est. Bref, le RHDP a gagné.
Triomphé, on pourrait dire.
Les observateurs de ces élections, les ONG ivoiriennes, les ONG internationales, les ambassades occidentales. Wow. Les élections se sont déroulées dans le calme. Tout s'est bien déroulé. Donc, là encore, un label de démocratie pour ces élections. Mais quand on regarde bien, il y a beaucoup de choses qui expliquent cette victoire. Et il faut reconnaître au RHDP d'avoir préparé de longue date ces élections. Des élections, ça ne se prépare pas 2 mois ou 3 mois avant. C'est longtemps avant. Quelle a été la mécanique du RHDP? Surtout après les élections présidentielles houleuses de 2020, le RHDP a mis en place un système, très beau système, constitué de réseaux, réseaux administratifs, réseaux financiers, réseaux politiques, dans toutes les parties du pays. Au plan administratif, pratiquement tous les directeurs généraux, directeurs ou sous-directeurs de toutes les administrations, y compris celles des régies financières, sont RHDP. Deuxième, au plan économique, les hommes d'affaires font partie de ces réseaux. Même la franc-maçonnerie fait partie de ces réseaux.
C'est important à noter. Puisqu'on dit qu'elle est si importante en Afrique.
Elle est très importante. Feu Ahmed Bakayoko, qui avait été Premier ministre, était le président de la loge, de la principale loge de Côte d'Ivoire. Et après sa disparition, c'est un autre RHDP qui est là. C'est le jeune Don Wai qui est... Bon, je le sais, pas parce que je suis membre, je ne suis pas membre de ces... J'ai tellement peur de ces... Bref. Au plan donc financier, comme au plan politique, le RHDP a mis en place une toile d'araignée à travers tout le pays. Deuxième élément, en dehors des réseaux, il y a le contrôle de tout le processus électoral. Nous avons en Côte d'Ivoire, officiellement, une commission électorale indépendante. C'est le libellé de la CEI, commission électorale indépendante. Mais sur les 18 membres de la commission électorale indépendante, vous avez 10 personnes qui sont RHDP. Surtout après la rupture de l'alliance PDCI-RHDP, la nature ayant horreur du vide, le RHDP a tout contrôlé au niveau central. Au niveau régional et local, les démembrements de la CEI, vous avez 590 personnes. Sur les 590 personnes, il y a 504 qui sont du RHDP. Bref, on contrôle l'organisme qui est chargé des élections. Mais on ne s'arrête pas là. Il y a eu un recensement national. À partir de ce recensement, on a établi la liste électorale. Tout le monde a été surpris, en tout cas moi en particulier, j'ai été surpris de voir que nous sommes 29 millions d'habitants et il n'y a que 8 900 000 électeurs.
Et alors,
comment ça se fait ça?
Et les autres?
Comment nous ne pouvons être que 8 900 sur 29 millions d'habitants? Il y a quelque chose qui ne va pas. Le PPACI et le PDCI, surtout le PPACI qui a mis en place cet organisme pour pouvoir repérer tous les tous les dysfonctionnements éventuels. On s'est aperçu que sur cette liste électorale, vous avez des milliers de personnes qui sont nées vers 1880-1990.
Qui ont donc entre 120 et 130 ans.
Entre 120 et 130 ans. Et vous avez d'autres qui sont nés en 2020. Donc des bébés qui votent. Bref, et vous avez des gens, on ne connaît ni le nom de leur père ni de leur mère. Ou alors vous avez des gens, vous avez des électeurs qui sont sur la liste et qui sont les enfants d'une même personne. On a trouvé le cas d'une femme qui avait près de 200 enfants sur la liste. Vous avez des gens qui sont décédés depuis longtemps, comme par exemple Bernard Dadier, qui est décédé. Tout le monde sait que Bernard Dadier, mais il était sur la liste. Bref, vous avez des anomalies absolument incroyables. Vous me direz, mais en fait, l'opposition voit tout ça, mais pourquoi il n'a pas bougé? Mais elle ne pouvait pas bouger parce que, avant tout cela, il y a eu ce qu'on appelle le dialogue inclusif de tous les partis. Et il y a eu des belles résolutions, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, pour le tout. Bref. Et c'est fort de ces conclusions-là que les partis d'opposition ont dit, nous allons participer aux élections, à toutes les élections. Ils ont répété ça à l'envi.
Les dés ne sont pas pipés.
Les dés ne seront pas pipés, tout va bien se passer. Mais une fois que vous avez annoncé tout cela et que vous découvrez brusquement, vous ne pouvez plus faire marche arrière puisqu'on va vous dire « Ah ben, vous êtes mauvais perdant, ça veut dire quoi ça ?» Bref, ils ont été piégés de cette façon. Ça, c'est su et connu de tous. Je n'invente rien. Il suffit d'aller sur place. Vous vous renseignez, vous voyez tout. Donc, ça, ça a été un énorme problème. Quatrième problème, je vous parlais des réseaux tout à l'heure. Mais, non seulement il y a ces réseaux, mais beaucoup de ces grands responsables qui étaient candidats pour les municipales comme pour les régionales sont à la tête de grandes entreprises ou de grandes administrations. Et donc la confusion entre le budget de l'État et le budget de campagne que chacun doit pouvoir mobiliser, cette confusion a été permanente. Résultat, je ne veux pas citer le nom d'une région, dans certaines régions, là où les candidats du RHDP pouvaient mettre 2-3 milliards pour leur campagne, les autres ne pouvaient mettre peut-être que 100 millions ou 50 millions. Donc là encore, il n'y a pas photo. C'est d'autant plus rageant que là aussi, c'est une la palissade. Tout le monde, à cause des difficultés de la vie quotidienne, a besoin d'argent. Mais la corruption a atteint des proportions dramatiques en Afrique en général et spécifiquement en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Il y a tout le temps des scandales. Il n'y a pas longtemps, on a parlé à propos du ministère de la Construction d'un détournement de 100 milliards de francs CFA. Bon, les syndicats de ce ministère sont montés au créneau pour dire « Ah non, c'est une accusation malveillante contre le ministre, etc. » Donc, mais, et toujours est-il que c'est le genre de scandale. Il y a eu un audit pour plusieurs sociétés d'État ou plusieurs administrations, des audits qui ont donné des résultats qu'on procès et il n'y a eu aucune sanction. On a parfois simplement déplacé un directeur général remplacé par un autre, mais celui qu'on a enlevé, on ne lui a rien fait. Et on ne peut rien lui faire puisqu'il risque de parler. Il risque de dire, bon, écoutez, bon, bref. Donc, tout cela fait que ces élections, visiblement, les dés étaient pipés dans une large proportion. Et celui qui devait gagner, c'est celui qui maîtrisait tout ce mécanisme et qui l'a emporté. À cela, il faut ajouter maintenant les difficultés propres à chaque parti, notamment les partis d'opposition. Vous prenez le PDCI-RDA, le 1er août, c'est-à-dire un mois avant les élections, le président du PDCI meurt, Henri Konabédi. C'est la catastrophe pour ce parti. D'autant plus que ce parti avait été en pointe lors de la fameuse affaire du troisième mandat. Et le président Bédié avait échappé de justesse à beaucoup de désagréments. Donc, beaucoup de gens se disaient que, bon, pour ces élections, le PDCI va pouvoir prendre véritablement sa revanche. Mais il meurt. Il meurt, le PDCI est orphelin.
En pleine campagne électorale,
non seulement il meurt, mais 3 jours après, son principal lieutenant, le général Ouassena, meurt aussi. Dans certaines circonscriptions, il y a des morts bizarres. Un de mes neveux, qui était candidat pour les élections à Daloa, les élections municipales à Daloa, juste avant qu'il ne parte pour démarrer sa campagne, on nous apprend qu'il meurt, qu'il est mort aussi. Le fils Bras, il a été enterré la semaine dernière. Bref, ça a perturbé beaucoup de gens. Mais pire, avec la disparition de Bédié et Ouassena, les ambitions au sein du parti ont commencé à s'exprimer. Il faut remplacer le calife. Et il y a beaucoup de vizirs qui voudraient bien remplacer le calife. Donc, division. Même si, au moment des élections, il y a eu un espèce de sursaut qui a eu pour effet de polluer la démarche d'alliance entre le PDCI et le PPACI. Beaucoup ont dit, non, on se replie sur nous, notre chef est mort, on doit pouvoir prouver et apporter une grande victoire en hommage au président Bédié. Donc du coup, panne de l'alliance sur laquelle comptait le PPACI. Le PPACI, même si c'est le parti de Gbagbo, le PPACI est un jeune parti qui a été créé il y a seulement 2 ans. C'est-à-dire au moment où Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire en 2021. C'est à ce moment-là qu'il a créé ce parti pour régler la crise grave du FPI qu'il avait créé auparavant et qui était une grosse machine que, entre-temps, Afi avait quasiment laminé. Donc, il crée ce parti. Donc, le parti en question a des problèmes d'implantation nationale, d'autant plus aigus qu'il est que beaucoup de membres de la direction de ce parti sont sous le coup d'un harcèlement judiciaire permanent et des violences, etc. Donc des difficultés d'implantation. Beaucoup de ceux qui dirigent ce parti sont rentrés d'exil en même temps que Gbagbo, c'est-à-dire il y a 2 ans. D'autres sont rentrés un peu plus tôt, mais ils n'avaient pas voix au chapitre, n'avaient pas le droit de bouger. Donc du coup, ce parti a été absent au plan local et au plan régional au moins depuis 2011. Résultat, ceux qui étaient candidats partaient avec ce handicap de ne pas véritablement être en phase avec. Mais pire, on ne fait pas la politique avec uniquement des discours. Il faut un minimum de ressources financières. Et ce parti n'a pas de ressources financières. C'est il y a quoi, peut-être 3 ou 4 mois, que Gbagbo a pu maintenant commencer à percevoir ses émoluments d'ancien président de la République. Donc lui, il ne peut rien donner. On a commencé à le payer, mais il n'y a pas eu, je ne crois pas. Bon, je n'ai pas osé lui demander parce que, bon, il n'y a pas de quoi payer une campagne. Les quelques rares hommes d'affaires, les petits hommes d'affaires, hein, qui sont sympathisants de ce parti, ne vont pas mettre leur bille au point d'avoir à mettre la clé sous le paillasson. Non. Ce parti, dans une région, je connais plusieurs cas comme ça, dans une région, les gens du PACI et du PDCI qui étaient en alliance ne pouvaient mobiliser que 150 millions, là où le candidat du RHDP pouvait mettre 2-3 milliards. Donc du coup, faiblesse. Mais à mon avis, il y a une autre faiblesse au niveau du PPACI. Ce parti qui vient donc de naître ne connaît pas, les hommes de ce parti ne connaissent pas bien le terrain. Et donc le discours qu'ils tiennent est un discours trop général ou pas assez en prise avec les réalités du terrain.
Surtout pour des municipales.
Surtout pour des municipales.
Bien sûr.
Les paysans ne se sont pas beaucoup inscrits sur les listes. Par contre, les citadins se sont beaucoup inscrits. Donc, si tu ne maîtrises pas cette population urbaine, si tu ne connais pas les problèmes de cette population urbaine, pour leur parler, pour leur dire, si je suis élu, il y a tel point concret sur le terrain que je vais résoudre, mais ils te tournent le dos. Et ça, il y a donc une question d'adaptation du discours de campagne à la réalité du terrain. Tu ne vas pas venir parler de souverainisme, de panafricanisme à un paysan qui, lui, a des problèmes fonciers pour sa petite plantation. Et c'est les petits planteurs. La moyenne, la propriété foncière moyenne de ces paysans tourne autour de quoi ? 2-3 hectares. Pour produire un peu de café, un peu de cacao. Le prix du café et du cacao, bien que important sur la scène internationale, le petit paysan, il ne voit pas la couleur de ça. Quand on m'a dit c'est 1000 francs le kilo de cacao dehors, mais lui, on va lui donner quoi? 700-800 francs le kilo. Et encore, pour lui donner cet argent, ce sont des bouts de papier. On dit, bon, prends ça. Lorsque la banque va nous donner l'argent, tu pourras aller à la banque. Mais il ne sait pas aller à la banque. Résultat, beaucoup de ces paysans, à la rentrée, là, la rentrée scolaire, n'avaient pas de moyens pour envoyer leurs enfants à l'école. Il y a beaucoup d'enfants qui sont à la maison encore. Parce qu'on attend que le bout de papier qu'on a donné, on puisse me donner l'argent nécessaire. Si tu es du PPACI, si tu es donc sensible aux questions sociales, il y a une réponse à donner à ça. Tu ne le fais pas. Tu parles d'étrangers, de marchés publics qui sont donnés, de fonds monétaires. Mais il dit, c'est quoi fonds monétaires? C'est pas mon problème. Donc, il y a une question d'adaptation. Et cette adaptation est liée à la connaissance du terrain. Le parti est jeune. Ces gens n'étaient pas prêts encore. Vous me direz, mais alors pourquoi ils sont partis? Si tu es engagé, il faut apprendre ce qu'est le terrain. Il faut connaître. Et ce qui avait fait la force de Laurent Gbagbo du temps du FPI, c'était sa connaissance intime des problèmes de toutes les régions et les problèmes concrets au moment où il faisait ses tournées. Laurent a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de ses compagnons, il les a envoyés partout. Donc, c'est ça qui lui a permis, entre 90 et 2000, c'est ça qui lui a permis de se faire connaître, d'être adopté par les populations qui se reconnaissaient dans son discours et qui rêvaient donc grand pour lui et avec lui. Mais Laurent est resté à la CPI autant d'années. Et beaucoup de ses anciens compagnons l'ont trahi. Mais ça encore, la trahison en politique, ça fait partie des choses habituelles. Mais il y a l'âge. Laurent Gbagbo a le même âge que moi, 78 ans, nous allons sur nos 79 ans. On n'a plus la force de se battre. Et est-ce qu'il a vraiment envie encore de continuer? Comme il le dit si bien, il a été député, il a été non seulement chef de parti, mais député, il est vice-président, il a fait ci, il a été président de la République pendant 10 ans. Quand il se réveille, il ne pense pas, en se rasant, il ne pense pas à la présidentielle de 2025. C'est pas...
Il l'a dit lui-même.
Il l'a dit. Même si il laisse la porte ouverte en disant, bon, si le parti insiste vraiment, bon, alors je serai, mais c'est pas... Donc sa préoccupation au jour d'aujourd'hui est davantage celle, bon, je caricature un peu, celle du notable qui aimerait bien former des gens pour lui succéder et continuer ce combat, donner les orientations, etc. Or là, ce qui s'est passé, c'était surtout pour, un, rompre avec la politique de la chaise vide qui avait été menée en son absence et qui nous a desservis. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui croit toujours en la démocratie et qui espère que ceux d'en face finiront bien par adhérer à cette idée de démocratie. comme, bon, je ne veux pas trahir de secret, mais il me fait l'amitié de discuter beaucoup avec moi. Et je lui ai dit à ce propos, j'ai dit, oui, c'est vrai, tu y crois, moi aussi j'y crois fort. Mais l'idéal démocratique n'est pas encore bien implanté dans notre pays. Il nous faudra nous battre pour que les populations, au moins la plus grande partie de la population, acceptent le jeu démocratique comme étant vital pour la survie de ce pays. Sinon, c'est la porte ouverte. Bon, il y en a qui vous disent, oh, oui, non. Mais pour eux, je ne veux désigner personne, mais pour eux, bah, la démocratie, c'est la porte ouverte à tous les possibles. On peut faire tout. Quand on est démocrate, on peut tricher, on peut... Pourvu que je sois l'élu, peu importe la manière. Et c'est là que, vraiment, j'ai beaucoup d'inquiétude pour le futur. En plus du fait, et ça je l'ai toujours dénoncé à la suite de Laurent d'ailleurs, tant plus que dans le discours politique ivoirien, j'avais en 2002 publié un article dessus. Dans le discours politique ivoirien depuis notre indépendance, le facteur ethnique est brandi, est toujours évoqué comme facteur déterminant en politique. Et c'est un faux discours. Au jour d'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas trouver un enfant qui disent qu'il est bété pur, c'est-à-dire, ou alors baoulé pur jus. C'est pas vrai. Parce qu'ils ont, soit le grand-père ou la grand-mère, ou l'arrière-grand-père ou la grand-arrière-grand-mère, qui sont d'une autre région. La Côte d'Ivoire est devenue un peuple métissé culturellement. Et donc, la réalité ethnique est fausse. C'est un faux discours politique. Et c'est d'autant plus faux que ça ne permet pas de construire une nation. Au moins que l'on s'attache à développer cette culture démocratique pour être le point de rassemblement de toutes ces populations métisses culturellement. Voilà, à mon avis, ce sur quoi moi je débouche conclusion. Un, ces élections ont vu la victoire du RHDP, mais c'est une victoire en trompe-l'œil qui peut préparer des situations catastrophique demain, pourvu que le président Ouattara et son parti ne veuillent pas créer en Côte d'Ivoire, faire du RHDP un parti État comme le PDG de la Guinée de Sékou Touré. Et puis au jour d'aujourd'hui, avec tous ces djihadistes qu'on voit partout, avec toutes ces menaces qu'on a, c'est le moment de rassembler les Ivoiriens dans leur diversité autour de processus qui consolident l'État, qui donnent corps à la notion de nation. Bref, un processus qui accepte la réconciliation. Réconciliation après les graves crises que nous avons connues. Et ces élections-là ne vont pas dans le sens de la réconciliation. Telle qu'organisée, si ça avait été organisé correctement, il y a pas de problème. Et ils peuvent gagner, ils peuvent gagner sans tricher. On peut gagner sans tricher. Mais en Afrique, malheureusement, dans beaucoup de pays africains, moi j'ai fait un peu le tour de notre continent durant ces dernières années, il y a toujours cette démarche qui est antidémocratique et qui provoque les coups d'État. Ça commence à revenir. Qu'on fasse attention. Nous n'avons plus besoin de ce genre de situation. Mais bon, je touche du bois, j'espère que nous ne nous connaîtrons pas et que chacun aura la sagesse de revenir à des choses plus simples, plus propres, plus citoyennes. Voilà Bernard, ce que je peux dire.
Merci, je voulais beaucoup te remercier pour cette honnêteté intellectuelle dont je te savais capable, oui. Mais tu es adhérent au PPACI et en même temps tu es capable de situer ça dans l'évolution générale d'un rapport de force entre les cultures, les continents et les dominations politiques qui couvrent la planète. Je t'en suis très très reconnaissant.
Merci beaucoup.
Merci Pierre.
Merci.
Et nous voilà donc à la suite de cette magnifique interview structurée, paisible, mais tous les éléments ont été mis sur la table, comme on dit, pour que chacun d'entre vous puisse juger de ce qui s'est passé, c'est-à-dire une élection totalement trafiquée par des spécialistes du trafic, des tricheurs organisés, patentés, conseillés, je l'ajoute certainement, par des tricheurs extérieurs qui ont amené les logiciels, la fabrication des listes électorales et tout. Tout ça, il y a des complicités derrière ça. Complicités, elles sont celles qui ont amené Alassane Ouattara au pouvoir. Hein. Donc ne cherchez pas très loin. Ça se passe quelque part autour de la Seine, hein, à Paris, tout ça. Bon. Donc toute cette fabrication d'une fausse élection destinée à donner l'impression qu'il y a une démocratie. Puis ça a été la proclamation, la démocratie s'est exprimée, tout le monde est content, il y a un parti qui a écrasé les autres, mais c'était normal, il est le meilleur, etc. Bon, c'est de ça, c'est face à ça que se trouve la Côte d'Ivoire, mais beaucoup plus que la Côte d'Ivoire. Et je reviens sur les dernières paroles de Pierre Kipré, qui dit « Attention, les rapports entre la démocratie et les coups d'État sont des rapports compliqués en Afrique. Pourquoi ? La démocratie... À la mode Ouattara, je vais faire simple. Il n'est pas la seule à l'avoir pratiqué parce que les autres ont les mêmes conseillers que lui. Les Bongo ont les mêmes conseillers que lui. Sassou Nguesso a les mêmes conseillers que lui. Bazoum a les mêmes... Bon, tous ces gens-là pratiquent la démocratie de la triche pour profiter aux intérêts néocoloniaux de la métropole. Bon. Et donc, l'électeur africain, le citoyen africain qui voudrait se situer dans un pays, j'allais dire, un peu normal, a en face de lui une démocratie qui est totalement caviardée, qui ne marche pas, qui est trichée. On n'a pas parlé même de corruption des électeurs, mais ça existe aussi. Hein, enfin, tout y est, là, le tableau qu'il nous a dressé très tranquillement, c'est un tableau apocalyptique. On ne devrait même pas aller voter quand on sait tout ça. C'est pas sérieux, ça ne sert à rien, on perd son temps. Bon, il faut bien voir que beaucoup d'Africains et des jeunes Africains maintenant savent ça. Et ils ont ça comme seule sortie, c'est-à-dire participer à des votes de trafiqués, à des votes manipulés, à des votes courus d'avance. Bon. Que faire dans ce cas-là ? Effectivement,
un coup d'État.
La question qui se pose, non mais c'est pour ça que Pierre la pose et il a raison, il ne reste... Alors, c'est une épouvantable alternative, il faut chasser les tricheurs, il faut chasser les corrompus, il faut chasser ceux qui sont enrichis sur le dos du peuple, etc. etc. Mais en fait, comment on fait ? Ah ben c'est un peu difficile parce qu'ils sont entourés, il y a des gardes présidentielles, il y a la Légion étrangère française, il y a des régiments ici et là, il y a un système de surveillance, il y a une police qui est très très bien organisée, qui a des fichiers, c'est pas facile. Et donc la seule issue que certains utilisent, c'est de dire, ah ben, puisque par la voie dite démocratique, qui ne représente évidemment pas la démocratie vraie, où chaque voix pèserait le même poids et où il n'y aurait pas de tricherie, il ne reste que le coup d'État pour chasser les voleurs, les voyous.
Je suis d'accord.
Et ça, c'est un espèce, et il faut bien qu'on en soit conscient, c'est un espèce de drame pour la jeunesse africaine. Alors, c'est moins vrai peut-être en Afrique du Sud, ici et là, mais dans la grande majorité des pays nouvellement décolonisés, parce qu'à l'échelle de l'histoire, la décolonisation en 1960, ça fait pas très longtemps que ça dure. Et il faut savoir que de 1960, en gros à 1990, il y a eu à la tête de ces pays des Oufouette Boigny, des gens comme ça, qui eux non plus n'ont pas pratiqué pratiquer la démocratie. C'était parti unique, etc. Donc il n'y a pas de culture démocratique, c'est-à-dire si vous dites sous Oufouette, il y avait la démocratie, le jeune Ivoirien, enfin, ou l'Ivoirien qui a un peu d'âge, il vous dira non, ce n'était pas vrai, parce que le parti donc, de Oufouette-Boigny, le PDCI de l'époque, avait tous les pouvoirs nommés à tous les postes, etc. Il avait un système de réseau que celui de Ouattara ne fait que remplacer et de prolonger. Bon, donc la culture démocratique, elle est venue tardivement. Et elle est venue de façon délicate, puisque ça s'est passé dans la décennie 90-2000. Il faut bien voir ce qui s'est passé. En 90, en gros, on peut considérer que le danger socialiste mondial disparaît. C'est la chute de l'URSS et tout, la guerre froide est finie, etc. Et là, effectivement, on a une période d'ouverture qui a lieu dans tous les pays africains nouvellement décolonisés, où on dit, alors il y a les conférences nationales, on s'assoit tous autour d'une table, on essaye de parler, etc. Et il y a une espèce d'espoir d'une vraie démocratie, puisque chacun est conscient autour de la table que jusqu'en 90, il n'y avait pas de démocratie. À telle enseigne que, par exemple, tous les chefs d'État de l'Afrique francophone votaient, comme la France, aux assemblées générales de l'ONU, parce que c'était un ordre. Hein. Bon, donc, tout le monde le savait, ça. Et donc, cette décennie est une décennie où on peut avoir espoir dans la démocratie. C'est pendant cette décennie-là, et Pierre l'a rappelé, que Laurent Gbagbo construit son parti démocratique, qui s'appelle à l'époque le FPI. C'est-à-dire que là, il y a une ouverture, on peut dire ce qu'on veut, on peut aller partout, on n'est pas contrôlé. Mais ça va changer en 2000. Ça va changer en 2000, d'abord parce que la France coloniale ne souhaitait pas que Laurent Gbagbo gagne les élections, parce qu'il se dit, voilà, un vrai démocrate. Mais moi, ce n'est pas ça la démocratie qui m'intéresse, moi, le pouvoir néocolonial. Je veux une démocratie manipulable, qui triche, corrompue, corruptible, etc. Et donc, on va essayer, et ça va prendre. Alors là, coup de chapeau à Laurent Gbagbo. Il a résisté 10 ans à une décision qui était prise dès son arrivée au pouvoir dans des conditions parfaitement régulières en 2000. Il a résisté 10 ans au coup d'État que Nicolas Sarkozy a organisé contre lui. Faut bien voir ça. Bon. Après la suite, bon, ça a été rappelé. Donc 10 ans après, il est chassé par un coup d'État organisé par la République française et on met en place, on remet un tricheur à l'ancienne manière avec tous les pouvoirs, les soutiens financiers, économiques, etc. Donc, la lucarne démocratique, comme on dit, elle est extrêmement courte. C'est ces 10 années et c'est le travail qu'a pu faire avec d'énormes difficultés Laurent Gbagbo pendant tout son mandat de 2000 à 2010. C'est-à-dire, il faut savoir qu'il a été obligé, par exemple, d'introduire ses adversaires politiques dans son gouvernement. Il l'a fait. C'est-à-dire qu'il a joué au maximum le jeu en disant « Regardez comme je suis gentil, hein, je veux que tout le monde puisse s'exprimer, donc je mets y compris mes adversaires les plus décidés, et je sais qu'ils me veulent du mal et qu'ils iront très très loin dans la poursuite de leurs objectifs de me faire partir, je prends le risque. » Alors il a fait avancer certaines petites choses, mais avec d'énormes difficultés et avec une pression considérable de la France-Afrique qui ne voulait pas de lui. Je vais juste citer un fait pour montrer à quel point on était. Une des premières fâcheries entre l'Élysée, donc la présidence de la République française, et Laurent Gbagbo, c'est le jour où il arrive au pouvoir, on lui dit que la France doit recevoir les ordres du jour du Conseil des ministres de la Côte d'Ivoire avant la tenue de la réunion. Et il dit, mais attendez, je suis chez moi, j'ai été élu par les Ivoiriens, je suis président de la Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres, le gouvernement a été nommé, le Conseil des ministres fait son travail de Conseil des ministres. Ce n'est pas à vous de juger quelle question doit être mise à l'ordre du jour ou pas. Et la France se fâche à partir de ce moment-là, on se méfie de lui. Pourquoi on se méfie? Parce que lui, c'est un vrai démocrate, pas un faux démocrate. Et les vrais démocrates comme ça, ils ont la vie extrêmement difficile. Il est le meilleur exemple. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui dans des situations extrêmement douloureuses pour les jeunes Africains qui, alors on n'est pas en 1960, les jeunes Africains ont fait des études, lisent, écoutent la radio, sont sur Internet, etc. Et quand ils voient que le seul choix qu'on leur laisse ou que le néocolonisateur leur laisse, c'est soit le coup d'État, soit la démocratie pourrie, oh, mais ils disent, ben, de toute façon, tentons le coup d'État. Et c'est pour ça, alors, j'insiste là-dessus parce que ce que dit Pierre Kipré, ce n'est pas du tout une condamnation du coup d'État au Burkina ou au Niger, pas du tout. Mais il dit, il faudra bien un jour, et c'est son espoir et qu'on peut partager, qu'on ait une autre façon de faire avancer la démocratie dans nos pays. Parce que ce qu'il constate, c'est qu'effectivement, il y a cette impossibilité de la démocratie vraie, et donc il reste que la situation militaire.
Oui, mais Pierre, il a la sagesse.
Voilà.
Par contre, ceux qui sont dans l'armée, qui sont jeunes, peut-être...
Il faut qu'ils fassent très très attention au fait qu'à eux de faire, qu'il faut rétablir... Ils ont le pouvoir, ils ont chassé, ils ont chassé les corrompus, ils ont chassé les voyous, ils ont chassé... Je dis, Ouattara devrait avoir le prix Nobel de la triche. C'est ça qu'il mérite. Hein, c'est le seul prix Nobel qu'il mérite. Mais c'est un sommet dans le genre. Tout ce que vous avez entendu, et encore Pierre Hoff, quand on a bavardé avec lui avant et après l'enregistrement, il nous a raconté des choses absolument ahurissantes. Hein, sans compter des morts suspects, etc. Et de la liste électorale trafiquée. Enfin, on est arrivé à un niveau de manipulation qui fait que le mot démocratie lui-même, on ne sait plus si on doit s'en servir. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Même en France, on ne sait pas.
Voilà, j'allais dire, hélas, pour nous, on peut se poser maintenant ce genre de questions qu'on est en train de mettre le doigt sur les mêmes problèmes. Et je pense qu'il y a aussi des citoyens aux États-Unis qui disent entre Trump et Biden, hein, les deux présidents, enfin candidats à la présidence qui sont menacés de destitution, ils ne seront pas destitués, rassurez-vous, parce que le processus ne peut pas arriver. Mais c'est ça, deux candidats qui ont plus de 75 ans et qui sont destituables, et on a que ça à mettre sur le plateau de la démocratie. Mais qu'est-ce que c'est pas possible. Donc le concept est vicié, le concept est abîmé au point qu'on se demande s'il pourra encore servir. Alors le pari de Pierre, c'est clair, et le pari de Laurence, c'est clair. Il faut tenter la chance, mais il faut tenter la chance. C'est à la limite beaucoup plus difficile dans un pays où les traditions démocratiques sont encore très faibles, toutes petites, que dans les nôtres, encore que on ne soit pas à l'abri de certaines déconvenues. Voilà ce qui me paraissait essentiel de dire autour de tout ce qu'on a entendu. Mais c'est très riche sur la réflexion sur l'Afrique en général et sur ce processus de décolonisation qui est en route sous nos yeux. La décolonisation n'est pas faite. Ce n'est pas l'Amérique latine. L'Amérique latine s'est débarrassée des colonisateurs il y a 200 ans. L'Asie, toutes les colonies d'Asie ont été décolonisées dans les années 40, hein, tout de suite après la Deuxième Guerre. Donc là, on est devant une énorme tâche avec 54 pays, ce qui ne facilite pas les choses, hein, qui sont tous à un état de démocratie encore rudimentaire. Donc c'est ça la situation en Afrique, et ça c'est très bien que Pierre nous l'expliquait très honnêtement, parce qu'il est adhérent du parti de Laurent Gbagbo, il le dit, hein, mais en même temps il regarde et il dit voilà tout le chemin que nous avons à faire. On a tenté un premier essai, mais on a beaucoup à apprendre, y compris sur l'enracinement, mais on ne s'enracine pas en 2 ans dans un pays qui est gouverné par des tricheurs. C'est très très difficile, et puis il y a encore beaucoup d'opposants en prison, puis il y a des opposants qui meurent. C'est ça la réalité de ce qu'on ne peut pas appeler une démocratie. L'abus de terme est insupportable, et ceux qui en France, dans les médias et dans le monde politique, se permettent d'utiliser ce terme sont des voyous. Ce sont des voyous du langage, je ne dis pas qu'ils ont des revolvers dans leur poche, ce sont des colporteurs de fausses nouvelles. C'est rien d'autre que ça. C'est ce qui explique le résultat. Le RHDP, Ouattara a triomphé. Non, c'est la triche qu'il y a. Hein, c'est l'inorganisation des autres, c'est la menace, c'est la corruption. C'est ça qui a gagné. C'est pas la démocratie. C'est la forme contemporaine du colonialisme. Voilà ce qu'on pouvait dire pour terminer. Alors, juste une chose pour les dernières minutes. N'oubliez pas la semaine prochaine d'écouter mercredi prochain, donc à 20h, ce sera un enregistrement d'Annie Lacroix-Rie sur les origines du plan Marshall. Et là, en termes, alors vous savez tous ce que c'est que le plan Marshall, en gros, comme terme de fausses nouvelles et de trafic sur les mots, le plan Marshall n'a sauvé personne. Le plan Marshall a transformé la France en colonie des États-Unis. Voilà la leçon sur 800 pages que tirera sous nos oreilles Annie Lacroix-Rie mercredi prochain. Merci Roselyne, merci de votre attention à tous.
Merci Rose.
Merci beaucoup
à la semaine prochaine.
Ah ouais, c'est très beau. Et moi, j'ai dit, en Afrique...
rosée.
La rosée.
La rosée.
La rosée.
La rosée.
La rosée. La rosée.